Erev Tov Lekoulam, Erev Tov Lekoulam, on revient dans notre étude du livre de Shemot et on est en petit comité suite aux nouvelles restrictions. Mais les ondes, les internets sont-ils limités? Et donc nous avons des millions. Mais de toute façon, nous on table sur la qualité. Nous on s'en fiche de la quantité, nous on veut que la qualité. Bekitzur, on est Perek Bet Pasuk Kaf Gimel, chapitre 2, verset 23. Et donc, Moshe a quitté l'Égypte. Moshe a quitté également Israël, c'est-à-dire les bénis Israël qui sont en Égypte. Il ne se revendique ni de l'un ni de l'autre. Il ne se reconnaît ni chez les uns ni chez les autres. Il part donc à Midian. On a expliqué qu'il veut là-bas y créer une nouvelle identité, un nouvel idéal, un nouveau peuple juif, un New York, c'est-à-dire une nouvelle Angleterre, c'est-à-dire, c'est parti, la Nouvelle-Orléans.
Il est conscient qu'il est leader du peuple juif, il veut faire un nouveau peuple juif.
Comment ça, il n'est pas encore leader du peuple juif?
Non, vous me dites, il va là-bas, il va à Midian pour faire un nouveau peuple.
Tout à fait.
Il a la conscience qu'il est leader.
Tout à fait. Tu poses, est-ce qu'il a une conscience de leadership? Bah, d'abord, il est biologiquement le fils de Amram, qui est le chef des Bnei Israël en Égypte. Et puis, il a quand même grandi 40 ans en tant que prince d'Égypte. Donc, tu m'étonnes qu'il a quand même une certaine connaissance en leadership. C'est-à-dire, donc oui, bien sûr, il se sent investi d'une mission de dirigeant.
Il a un but dans la création de ce
nouveau. Oui, retrouver la Torah 13-7 d'Abraham. On avait expliqué pourquoi est-ce qu'il va à Midian. C'est parce qu'il veut se rattacher à la Torah d'Abraham.
Pourquoi il va à un puits aussi?
Pourquoi il va à Midian? C'est pour Abraham. Pourquoi il va à un puits? C'est parce qu'il veut créer un peuple. Ok? Yaakov avinu lamad, ce qu'on avait vu. Donc, une fois qu'il est bien installé, il s'est marié avec la fille du patron, il s'est marié avec la fille de Yitro, Tzipora, et ils ont déjà un fils qui s'appelle Gershom, et on avait dit que d'abord on a plus ou moins des points d'espoir, parce que il décide d'appeler son fils en hébreu, Gershom. Et ça montre qu'il n'est pas complètement détaché quand même de son identité profonde.
Mais il ne lui fait pas la Mila.
Il ne lui fait pas la Mila. Comment tu sais qu'il ne lui fait pas la Mila?
Il a un fils.
Et alors, il y a marqué, on a lu qu'il ne lui a pas fait la Mila?
Non.
Il a fait.
Non, d'accord.
Donc, il l'appelle en hébreu et il se voit quand même comme étant Ger. Gershom qui a marqué Ger Haïti Be'eretz Norchia. Ok? La question, c'est est-ce que lorsqu'il dit cela, il se voit, il dit j'étais un étranger en terre étrangère, est-ce qu'il parle de Midian ou est-ce qu'il parle de l'Égypte? Et à ce moment-là, il se verrait bien à Midian. Ok? On va voir ça dans quelques minutes. Donc, Vayi bayamim arabim ahem, vayamot melech mitzraim, vayanechu bene Israël min avoda, vayzaku vatal shavatam el Elohim min avoda. 23, Kafe Gimel. Donc, Pharaon est mort, vive le roi. Un nouveau Pharaon s'est mis en place. Ah oui, tu as Bereshit.
Non, je fais des
Dvarim. Dvarim, c'est bientôt.
Bekitsour,
Pharaon est mort, c'est maintenant un nouveau Pharaon qui est en place, et il a l'air d'être beaucoup plus dur avec les Bnei Israël qu'avant. Puisqu'on nous dit, il est... Et vraiment, Melach Mitzrayim, va y anechou ben Israël mina avoda. Donc là, le travail est de plus en plus dur, et donc va y zakou, vatal shavatam el Elohim mina avoda. Qu'est-ce qu'ils ont dit donc les Bnei Israël? Va y zakou. Ils ont crié. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Pour qu'elles reviennent. Ouais, c'est ça. Ils ont dit oy vei. Ils ont dit aïe. On a mal.
Ils ont gémi.
Voilà. Est-ce qu'ils ont dit on veut revenir vers Akadosh Baruch Hu et on veut enlever toute la avodah zara égyptienne? Pas du tout.
On les a planqués.
C'est pour le corona. Prends-en un.
Discrètement.
Discrètement.
Ça
Tu mets de l'alcool gel sur le chumash d'abord. Et à chaque page, tu dois mettre de l'alcool gel d'abord sur la plage.
Et mets des gants.
Et tu n'as pas à toucher le livre.
Qu'est-ce qu'il faut pour étudier?
T'as vu? Dur, hein? Kitsour, vous verrez, un jour on en rira de cette période du corona.
Hein?
C'est... Non, il y a des gens, à l'époque où ils avaient fait le confinement des enfants dans les écoles, où il n'y avait pas les écoles, quoi, après, à l'époque de Pessah. Alors j'ai posé une question une fois, j'ai dit, alors c'est quand qu'ils vont réouvrir? Ils m'ont dit, Altidak, tes petits-enfants, ils retourneront à l'école. J'ai dit, mais non, mais t'as pas compris, si mon fils il reste en confinement encore pendant une semaine, je vais le tuer, il n'y aura plus de petits-enfants. C'est pas possible.
Mais...
On n'est pas encore arrivé au pasouk, hein? Oh, il va revoir. Bekitsour, ils ont dit aïe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un véritable retour vers Akadosh Baruch Hu et tout ça. Mais le simple fait de dire aïe, tate, comme on dit en arabe, ça marche. C'est-à-dire que le premier retour vers Akadosh Baruch Hu, c'est un retour qui ne vient pas de là. Ça vient du plus profond de toi. Aïe, j'ai besoin d'aide. À l'aide. C'est ma mâche, à l'aide. Vaishma Elohim et Naakatam, Vaiskor Elohim et Berito, et Avraham et Yitzhak et Yaakov. Ben, c'est la preuve. Dieu ne va pas leur venir en aide parce qu'eux le méritent. On ne va pas y arriver. Hein. Dieu ne va pas leur venir en aide parce qu'ils le méritent, mais parce qu'il se souvient de la promesse qu'il a faite à Avraham, à Yitzhak, à Yaakov. Oui?
Non, je reviens, je suis désolé avec un petit peu de retard. Au sujet de Gershom.
Oui.
Il appelait Gershom Ger, parce qu'il était guerre parmi les livres. Mais finalement, il a donné le nom à son fils en fonction de sa propre situation. Il n'a pas imaginé que ce fils aura un avenir.
C'est-à-dire, il n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas ça que je dis.
Il a oblitéré l'avenir de son fils.
T'en sais rien non plus. C'est pas parce qu'il a donné le nom de son fils en fonction de sa situation qu'il a prévu que son fils il n'avait aucun avenir. Ça, on n'en sait rien. Là pour l'instant, il appelle son fils en fonction de ses péripéties. Ce qui arrive d'ailleurs depuis le début du livre de Bereshit. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir que alors qu'il a rejeté l'identité hébraïque, il donne quand même un nom en hébreu. Ok? Bekitsour, Vayar Elohim et Bene Israël, Vayeda Elohim. Zemayesh. Ou Moshe aya roe et son yitro, chotno, kohen midian, vainag et atson achar amidbar, vayavo el har a Elohim choreva. Donc, Moshe est un berger. Bon, Chazal vont dire qu'il s'entraîne. Il s'entraîne ici à être un berger pour finalement être le berger d'un troupeau hautement plus important, les Béné Israël, qu'il va sortir d'Égypte. Bon, Bessader, aval, lama. Quoi?
C'était son métier. À ce
moment-là. Donc là, tu poses la vraie question. Comment ça se fait que les manigim du peuple juif, on les a vus comme début de carrière en tant que berger? Et c'est assez redondant. Tu as dit David, mais en fait, on pourrait voir ça chez Abraham, chez Yaakov. C'est-à-dire que c'est très redondant. Les dirigeants du peuple juif, ils ont commencé leur carrière en tant que berger. Et la question, c'est pourquoi?
Il n'y a pas d'autres métiers. Hein. Ils sont
appelés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein d'autres métiers. Non, c'est un peu plus tard, usurier.
Paysan.
C'est-à-dire? Alors, pourquoi est-ce que l'apprentissage le meilleur pour celui qui va devenir le berger du peuple, c'est le berger des troupeaux? Alors, concrètement, je ne suis pas un mouton.
Non, mais...
Même s'il semblerait qu'on fasse de nous des moutons en ce moment, mais je ne suis pas un mouton. C'est quoi la qualité qu'on a besoin quand on est berger normal, hein, pas berger du peuple, mais berger normal? Il y a une qualité qui est évidente. Sans ça, tu peux pas. C'est que constamment, tu dois penser au bien-être de l'autre avant le tien. Parce que si tu te poses 5 minutes tranquille, pépère, tu perds ton troupeau. Donc la qualité première du berger, c'est da'aga lazulat, c'est de penser aux autres. Et c'est la qualité première qu'on va avoir besoin pour un dirigeant. C'est-à-dire, il y a une phrase qu'on dit, alors je ne sais pas si on le dit aussi chez les Sfaradim, mais qu'on dit chez les Ashkenazim, comme ça, un des Mishéberach qu'on fait le Shabbat, Mishéberach, la Kaal, je ne sais pas si vous dites aussi, on dit Mishéberach, Avotem, Osaré, Yaakov, Yivarech et Kol HaKaal, HaKadosh Hazeh, Im Kol Kilot HaKodesh, Em, Unchen, Uvnem, Uvnotehem, Vechol Asher Lehem, et là on rajoute, Umi Sheoskim Betzorche Tzibur Be'emuna, HaKadosh Baruch Hu Yishalem Secharam. C'est-à-dire quoi ? Ceux qui s'occupent du tzibour be'emouna, pas que à la synagogue d'Emouna. Vous l'avez pas, vous ? Non, c'est-à-dire. Akadosh Baruch Hu Yeshalem Secharam. Dieu va s'occuper d'eux. Il leur donnera leur récompense à eux. Lama. Ben parce que c'est une récompense que les autres ne peuvent pas te donner. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas. Ma femme, elle a fait quelque chose de terrible. Je n'étais pas du tout d'accord qu'elle le fasse, mais elle l'a fait quand même. Parce que depuis le début du corona, on a changé complètement notre système de tfilote, puisqu'on prie dans le jardin, et puis truc. Maintenant, on a depuis des années, on a quelqu'un qui s'occupe tous les vendredis de venir transformer le gagné la dîme dans lequel on prie, le vendredi, en synagogue. Et le samedi soir, il revient le remettre en gagne pour que le gagne recommence le dimanche matin. Et on n'a pas voulu lui demander en plus de ça, mettre aussi en place la nouvelle synagogue dehors. Donc, on lui a pas demandé. Mais il se trouve que tous les Shabbats, la synagogue, elle était mise en place. C'est qui le faisait ? C'était moi. Alors, j'ai rien demandé à personne. C'est-à-dire, une heure avant, et pendant, soit je venais une heure avant Shabbat, soit je venais vers 2h de l'après-midi, je mettais tout en place. Et ma femme, la semaine dernière, elle a envoyé un message, elle disait, juste que vous soyez au courant que toutes les semaines, une heure avant Shabbat, une heure après Shabbat. Mais non, j'ai pas besoin, je m'en fiche que les gens ils viennent m'aider ou pas. Je suis le responsable de la synagogue, c'est normal, c'est tout. Maintenant, il est évident que je m'attends pas à avoir des remerciements pour ça. Je le fais parce que il faut le faire. Asdon te dit, Aoskim betzorche tzibur be'emuna, les gens ils le voient pas. Tout ce que le berger il va faire pour son troupeau, tu crois que le troupeau il voit tout ce qu'il fait ? Non ! C'est la
conscience.
Hein ?
Il est un peu seul.
Alors ça c'est une vraie vérité. Il faut savoir que ça c'est un grand problème qu'ont les rabbins, qu'ont les chefs, qu'ont les dirigeants. C'est la solitude face à leur communauté. Ça c'est une vraie vérité. Invitez le Rav Ben Ishaï à manger. Voilà, je vous le dis. Invitez-le, ça lui fera plaisir, même s'il vous dit non. Parce que les rabbins, ils ont toujours l'impression que, bon, eux, ils invitent plein de monde, mais ils sont jamais vraiment les copains des gens. C'est pas vrai. Le rabbin, il peut être copain avec les gens de sa communauté. C'est Besséder Gamour. Mais c'est vrai que d'habitude, il est comme ça. Cette situation d'être le dirigeant le met dans une situation où il est tout seul. C'est caché. C'est caché, mal.
Les gens n'osent pas.
Mais il faut pas. Pour que quoi ? Ouais, on a l'armée ? On a l'armée ? Non. Soukchel, hein ? Nounou. Pekitsour. Donc on nous dit la chose suivante ici. On nous dit Vaya, Moshe Aya, Roe, Etson, Nitro, Rotno, Kohen, Midian, Vainag, Etson, Achar, Amidbar, Veavoel, Ara, Elohim, Choreva. Il le sait ou il ne le sait pas qu'il arrive El Ara, Elohim ? Cette dimension de Har Chorev qui s'appelle la montagne de Dieu. Moi je sais parce que j'ai lu l'histoire et je sais que c'est là-bas qu'il va y avoir Mahamad Sinai. C'est le mont Sinai. Moi j'ai lu la fin du film, j'ai vu la fin du film, je sais que. Mais est-ce qu'à ce moment-là on le sait déjà ? Ken. Ken. Bevadai Sheken. C'est-à-dire que c'est connu que c'est un endroit. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu se dévoile là-bas, mais c'est dans un endroit où on ressent la présence divine. D'où est-ce que lui, il l'a appris, Moshe ? De Yitro ! De Yitro ! C'est là ? Il y a deux. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe ? Vayar malach Hashem elav belavat esh mitoch asene. Vayar veine asene boer baesh va asene eineno ukal. Et iné, on commence la discussion au buisson. La fameuse histoire du buisson, qui d'ailleurs, d'après nos sages, va durer 3 jours. C'est pas à 5 minutes. C'est-à-dire, un gros débat se met en place entre Moshe et Dieu. Donc, Vayar Malach Hashem Elav Bela Bat Esh Mitoch Asene Vayar Veine Asene Boer Besh Veasene Neno Ukal. Le buisson est en flamme, mais il ne se consume pas. Point. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous. C'est-à-dire que. Ah bon, que, pourquoi ? C'est négatif de c'est négatif de brûler le bois ? Pourquoi pour rien ? Qui t'a dit que c'était pour rien ? S'il faut s'éclairer, se chauffer, c'est pas pour rien. Oui, mais ça n'existe pas dans ce monde-ci. Oui, mais à ce moment-là, il va rien apprendre, à ce moment-là, Moshe. C'est-à-dire, si c'est pour montrer que Dieu il est capable de faire des miracles, ça d'air, il a qu'à lui faire tomber une étoile filante dans ses bras. Sûrement, il faut aussi que ça ait pour nous une importance. Alors pourquoi t'as besoin du sné ? Pourquoi t'as besoin du buisson ? Fais-moi une boule d'énergie qui va faire de la lumière.
Non, parce que le buisson, c'est la matière.
J'ai pas compris, t'as besoin du buisson ? Pourquoi faire ? Tu viens de me dire que justement, tu faisais pas les trucs de ce monde.
Oui, mais justement, avec quelque chose de ce monde, qui est de ce monde, qui est hors nature, donc, dans ce monde, il y a des choses qui suivent des règles de la nature.
Nous.
Maintenant, avec l'intervention d'Hachem dans le buisson, il y a quelque chose de hors nature qui vient. Et il montre que cette chose qui est hors nature, eh ben, elle détruit les lois de la nature et qu'il n'y a plus de lois de la nature.
Je suis d'accord avec toi, ça s'appelle un miracle.
Oui.
Mais c'est pas bien un miracle. À la base, c'est pas bien un miracle. Donc si déjà il y a un miracle, pourquoi je dis que c'est pas bien un miracle ? Parce que ça vient briser les lois de la nature. Dieu, il a créé le monde avec des lois.
Oui, mais là, apparemment...
Donc ça veut dire que quand il y a un miracle, c'est qu'il n'y a pas le choix. Maintenant, donc ça veut dire que ce miracle, il doit nous apprendre quelque chose. C'est-à-dire ? Donc qu'est-ce que ça nous apprend que... Il a utilisé pour se il aurait pu se dévoiler n'importe comment. Tu comprends, le miracle, ça aurait pu n'importe lequel. Pourquoi est-ce qu'il a décidé que ce serait un buisson qui prend feu, mais qui ne se consume pas ? C'est ça ? Mahabaya. Oui ?
On pourrait comprendre une image. Là, il appelle Moshe dans le but d'aller sauver le peuple.
Oui. Dis-moi.
Oui, mais il se consume pas.
Mais pourquoi il serait le buisson ?
Moi, j'y vois l'image du peuple juif.
Ah, qui est dans les flammes, mais qui ne brûle pas. Ah, j'ai compris. Oui, oui, mais qui ne se consume pas. C'est-à-dire qu'il résiste quand même, qui est toujours là.
Il ne s'arrêtera jamais.
Il ne s'arrêtera jamais. Évidemment, j'ai compris. Il a fait. Tu dis, le sné, c'est l'image du peuple juif. C'est l'image du peuple juif, qu'il, bien qu'il soit attaqué constamment, il ne meurt pas. Il reste là. C'est ça ? Il a fait ? C'est l'explication de Rabbi Chaim de Volozhin.
Ce qui se relie à son éternité, par laquelle il se présente.
Et donc il peut, lui aussi, être éternité. Exactement. C'est exactement ce que tu dis, c'est exactement l'explication de Rabbi Chaim de Volozhin, qui dit qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'il a pris cette image-là ? Eh bien, tout simplement parce que le peuple juif est en train d'être attaqué dans tous les sens. C'est pour ça qu'il y a ce dévoilement-là, de la même façon que le buisson est attaqué par les flammes, mais il ne se consume pas. Et c'est Machal Lema Adavar Domé pour Moshe, pour lui expliquer qu'Am Israël, Netzach Israël, Lo Yishaker, Velo Yishaber. D'accord ? Donc on a ici le premier enseignement, c'est qu'on va parler de quelque chose qui est relié à l'éternité. Donc de quoi on parle ? Yomer Moshe, Asurana Ve'er'e, et Amar'e Agadol Azeh. Madoua lo yivar asne. Vous comprenez bien que Moshe, il n'a pas la même réaction que nous. Parce que nous, si on voit ça, notre première réaction serait de prendre trois pas en arrière. Mais Moshe, il dit, non, on va faire un selfie. Viens, on va aller voir. On va aller voir. Qu'est-ce qui l'intéresse ? Il dit, animevin, ce qui est en train de se jouer. Je comprends très bien. Je veux comprendre, Aval, pourquoi. Comment ça se fait que le peuple juif, il ne se consume pas ? J'ai bien compris ce qu'a dit Rabbi Chaim de Volozhin et Chabtaï. J'ai compris. Je suis Moshé. Mais je veux comprendre pourquoi. Ok ? Donc, ma, Maré Agadol, Madoa Loïvar Asne. Vayar Hashem. Ah ? Qui c'est qui lui a parlé avant ? Enfin, qui lui a pas parlé vraiment, mais qui c'est qui s'est dévoilé à lui avant ?
Malach
Hashem. C'est pas la même chose. Le Sne, c'est Malach Hashem. C'est un intermédiaire. Arshav, ah, t'as envie de comprendre quel est le secret du Ham Israël ? Oh ! Vayar Hashem. Ok ? וירא השם כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. Qu'est-ce que ça veut dire, ויאמר משה, משה? Il était dur d'oreille?
Avant qu'il y ait משה,
משה? Oui.
On parle d'un verset de Hachem à
Elohim. Vayar Hashem qui sar lirot, vaikra elav Elohim. Ah oui, excuse-moi, autant pour moi, j'ai pas expliqué ça, tu as tout à fait raison. Vayar Hashem qui sar lirot, vaikra elav Elohim, mitoch haseneh. Mais c'est Elohim par rapport à Hashem. Hashem, c'est Yudke Vavke. Avaya, la dimension de l'éternité. Elohim, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Donc, c'est Hachem qui va dévoiler à Dieu, qui va dévoiler à Moshe, c'est-à-dire que ce qui est en train de se jouer en Égypte, c'est le dévoilement de Elohim pour l'instant. C'est-à-dire que ceux qui dominent les Béné Israël, ce sont les Égyptiens, qui voient leur puissance et leur réalité dominée par les dieux de la nature. Tous les dieux égyptiens sortent du Nil. Donc pour eux, c'est la dimension de Elohim. Ils n'appellent pas ça Elohim, ils ne savent pas que ça s'appelle Elohim. Mais nous, on sait que c'est de ça, c'est de ça qu'on parle. Et donc, Hachem se dévoile à Moshe pour lui expliquer que pour l'instant, c'est le rôle de Elohim qui est mis en jeu pour finalement arriver à Hachem. D'accord ? Et à ce moment-là, il lui dit « Moshe, Moshe ». Là, Moshe, une fois, ça ne suffit pas ? Il a dit exactement pareil à Abraham, il a dit pareil à Yaakov, et il a dit pareil à Shmuel. C'est-à-dire qu'on a quatre personnes qui sont dures d'oreille. Ben, c'est ça. Hein?
Moshe à Charles et Moshe à venir à Tid.
Pourquoi tu dis ça? Là, il lui parle maintenant.
Maintenant, mais c'est évident qu'on est dans une prophétie. On est dans une...
Ben, d'accord, mais la prophétie... Il y a plein d'autres moments où il a parlé à des prophètes, il les a appelés juste une fois.
Peut-être qu'il veut faire référence à deux personnages de Moshe.
Ok.
C'est il est berger, et puis le futur délivreur
d'Israël. Moshe, Moshe.
C'est peut-être parce que c'est la première fois qu'il dit ça.
Et alors, pourquoi il lui dit deux fois Moshe? Moi, je sais que quand j'appelle deux fois mon fils, c'est que... Hein,
c'est...
Si, il y a l'écho. C'est l'écho, en fait. C'est l'écho. Nous dit le Sefer HaZohar qu'il y a, comme tu dis, une dualité chez Moshe. Mais en vérité, pas chez Moshe, chez tous les autres. Chez Abraham, chez Yaakov et chez Shmuel... Lorsque Dieu les appelle, effectivement, il les appelle deux fois, mais dans le Chumash, dans la tradition juive, on met un pasek, il y a un trait d'union, un cave, entre les deux Avraham, entre les deux Yaakov, entre les deux Shmuel, et pas ici. Moshe, Moshe. Dieu se verse voir, en fait, c'est la différence qu'il y a entre Avraham d'en haut et Avraham d'en bas. C'est-à-dire qu'il y a l'idéal que représente Avraham, et il y a Avraham b'mtziout. Il y a un écart entre l'Avraham d'en haut et l'Avraham d'en bas. Comme il y a un écart entre le Yaakov d'en haut et le Yaakov d'en bas, entre le Shmuel d'en haut et le Shmuel d'en bas. Il n'y a pas d'écart entre le Moshe d'en haut et le Moshe d'en bas. C'est-à-dire que Moshe est l'homme idéal. Il est celui qui représente la perfection de ce que doit être un être humain. Et c'est pour ça que dans le livre de Bereshit, lorsque Dieu il voit que les hommes sont partis en cacahuète, qu'il veut créer un nouveau style d'homme, il dit « Lo yadon ruchi ba'adam ki leolam ki beshagam ou basar veyu yamav mea ve'esrim shana » Je ne donnerai plus ma force, mon souffle aux hommes qui vivaient des centaines d'années, Ki beshagam ou bassar. Rashi dit ki beshagam ou bassar. C'est biglal chez ou bassar. À cause de son côté barbare qui fait n'importe quoi. Et donc, veyu yamav me'a ve'esrim shana. Sauf que beshagam, c'est bagematria Moshe. Et quand on y réfléchit un peu plus, le seul personnage du Tanakh qui a vécu 120 ans, boule, c'est Moshe. Donc c'est-à-dire que de qui on nous parle dans le livre de Bereshit ? De Moshe. L'idéal humain, c'est Moshe. Ok ? Parce qu'il a réussi véritablement à être complètement celui qu'il devrait être. Ok ? Il y a une très belle explication de la Chassidout de qu'est-ce que c'est la différence entre... C'est quoi le Geinom, Bémet ? C'est quoi le Geinom ? Le Geinom. Geinom. C'est l'Ashkenaz ou Sfarad. Eh bien, les Chassidim, ils expliquent, c'est la prise de conscience de la différence qu'il y a entre le Ratsouï et le Matsouï. Entre ce que tu voudrais et ce que tu as. C'est-à-dire ? Ça te torture énormément. Chez Moshe, il n'y a pas de différence. À Koltov. Donc, Vayomer Ineni. Lorsqu'il dit Ineni, il vient s'inscrire dans une longue lignée de gens qui ont dit Ineni. C'est qui le premier ? Abraham. Et qui avait oublié de dire Ineni, qui aurait dû être celui qui devait le dire à la base ? Non. Non. Adam. À qui on a posé la question « Où es-tu ?» C'est « Ineni », ça veut dire « Je suis là ». Ben, tu réponds à quelle question quand tu dis « Je suis là ». Où es-tu ? Dieu a demandé à Avraham, à Adam, à Yaka, il n'a pas répondu. Donc toutes les personnalités du Tanakh qui vont dire « Ineni », c'est qu'ils prennent sur eux de corriger la faute d'Adam Harishon. Ok ? Donc « Vayomer, Ineni ».« Vayomer, al tikra valom » Shal na'allecha me'al raglecha, ki ha'makom asher ata omed alav admat kodesh hu. Dit Dieu, ne t'approche pas plus et enlève tes chaussures. Parce que l'endroit où tu te tiens, veze makom kadosh. Lefi ha'alacha, est-ce qu'on a le droit de prier pieds nus? Ils ont un droit de prier pieds nus. Oui ? Bah, pourquoi pas ? Parce qu'il lui a dit, enlève tes chaussures. Parce que l'endroit où tu te tiens est un endroit saint.
En fait, je disais oui.
J'ai compris que tu disais oui. Oui, j'ai compris ce que tu dis. Je dis, mais tu me dis pourquoi pas ? Je te réponds, pourquoi est-ce que ce serait un problème ? Parce qu'il y a marqué ici, enlève tes chaussures parce que l'endroit où tu te tiens est un endroit saint. Ce qui veut dire que si ce n'est pas un endroit saint, faut pas enlever ses chaussures. Et effectivement, d'après la halakha, bechutz al haaretz asur leitpalel yachef. N'a pas le droit de prier pieds nus. Lama. Parce que c'est lo admat kodesh. C'est pas un endroit saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors ? Eh bien, prier pieds nus, c'est ne faire plus qu'un avec Adama. C'est-à-dire avec les forces terrestres. Mais il y a plein de touma là-dedans. T'as pas envie de t'attacher à Dieu par ça. Mais il y a un endroit où tu n'as pas le droit de prier en chaussures. Le Beth Amikdash. Alors, on garde ça hein, pour Birkat Kohanim. Parce que quand les Birkat Kohanim ils montent sur le Dukhan, c'est une grande Sheila Ba'alakha. Est-ce qu'ils ont le droit de monter pieds nus ? Est-ce qu'ils ont le droit d'être en chaussettes ? C'est Sheilot Hilchatiot Gdolot. Mais l'idée, elle est là. C'est-à-dire que au Beth Amikdash, tu n'as pas le droit d'être en chaussures. Parce que Zemakom Kadosh. Donc là-bas, Dafka, tu dois t'imprégner de la Kedusha. Donc, au Beth Amikdash, pas le droit d'être pieds nus. En route, pas le droit d'être en chaussures. En route, ça arrête, pas le droit d'être pieds nus. Ma Corée, quand t'es pas au Beth Amikdash, mais que t'es en Eretz Israël, hein? Az, ze moutar, aval assour. Aval moutar. Ze moutar, aval assour, aval moutar. C'est-à-dire, ze moutar. Aval assour, parce que 2000 ans, on a passé en Chutz la'aretz, et pour nous, quelqu'un qui se balade pieds nus, Zenira, ça fait pas classe. Va nu pied, exactement. Ça fait pas classe. Ça fait un paysan, un mec qui n'a pas de... Et tu te tiens devant Dieu. Donc, comme On a passé 2000 ans à être dans des cultures où il ne fallait pas être pieds nus. Eh bien, c'est devenu assourd. Aval moutard, si tu as le temps d'expliquer aux gens où tu es et pourquoi tu le fais. Vu qu'en général, on ne prend pas ce temps-là avant de prier, alors on prie en chaussures. C'est ça ? Puis après, il y a une sorte d'odeur, mais ça, c'est un autre problème. Quelqu'un qui serait tout seul, dans un endroit tout seul, parce qu'il est en bidoude. Tu dis parce qu'il est en bidoude. Quelqu'un qui est en bidoude. Ouais, mais s'il est en bidoude, il est dans son appartement. Dans son appartement, c'est Loa Adama. Toute cette chaîne-là, elle est que sur Ritzpat Adama. C'est quand tu es sur la terre. Quand tu es sur du béton, ça ne marche plus déjà. Alors, quand tu vas dans la forêt, la question se pose. Ça dépend. C'est une forêt en Ukraine, à côté du tombe, de la tombe de Rabbi Nachman.
Non.
Ah, tu parles, tu fais une hitbo des doutes dans la forêt de Jérusalem. Et tu es tout seul. Eh bien, c'est moutard, mais ne le dis à personne. C'est ça ? Voilà. Bikitsur, donc shalna alcha me'al raglecha ki ha'makom asher ata omed alav admat kodeshi vayomer anochi Elohe avicha Elohe Avraham Elohe Yitzhak ve'Elohe Yaakov v'aster Moshe panav ki yare me'abit el ha'Elohi. Qu'est-ce qu'il lui dit là, Dieu? Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Avraham, le Dieu de Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Il ne pouvait pas se contenter de dire Elohe Avraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov ? Pourquoi c'est important de savoir que je suis le Dieu de ton père ?
C'est racine.
Bah, c'est racine, non, au contraire, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi il a besoin de dire aussi qu'il est le Dieu de son père ?
Parce qu'il se cherchait en fait, Moshe, il ne savait pas très bien comment se situer.
Et alors ? Ok, mais et alors ?
Il se trouve dans la lignée.
C'est-à-dire que Dieu, il veut le rattacher maintenant au peuple juif. La seule chose qu'il le rattache au peuple juif pour l'instant, c'est son père. Et c'est pour ça que Chazal, ils disent dans le Midrash qu'il lui a parlé avec la voix de son père. Il a pris la voix de Amram. Mais ça, c'est un grand, grand limoud. Il faut savoir que quand vous parlez avec quelqu'un qui est loin, okay, vous faites du kirouv levavot, que vous parlez avec quelqu'un qui est loin, il faut absolument lui parler et le faire vibrer avec ce qui le fait vibrer. Pas avec ce qui te fait vibrer. Parce que tu dois lui parler à lui. C'est-à-dire,
c'est un langage qu'il entend.
Non, c'est pas, ça va plus loin que ça. T'as raison que tu peux pas lui faire, lui apprendre quelque chose s'il comprend pas ce que tu dis. Mais au-delà de ça, tu veux le rattacher. Pour le rattacher, il faut qu'il soit lui-même épris par ce que tu dis. Donc, si tu veux faire... Et ce matin, j'ai fait un shiur de Torah, une chaboura comme ça, à 5 gosses de 14 ans. Il fallait d'abord que je me mette dans leur truc. Donc, ils m'avaient demandé, c'est eux qui avaient choisi le sujet, ils m'avaient dit, ils veulent qu'on parle des démons. Des démons. Pack de coq et tout, machin. Oh ! Kitsoré, on faisait ça en colo, bien sûr. Mais c'est aussi marqué dans la Gemara. Donc, je me suis dit, quoi, on va faire ça, on va rentrer dans les Gemarot tout de suite, comme ça, c'est là. Donc, je connais une série satirique israélienne que je sais très bien qu'ils connaissent et qu'il y a un pérec où ils parlent de ça. Et ils se moquent complètement de Shmuel Hanavi et de, ils reprennent la sipour de Baalat Ha'ov, de quand Shaoul, il est venu voir une sorcière qui a fait revenir Shmuel. Donc ils ont mis ça en scène. C'est plus ironique sur le Tanakh, tu peux pas. Voilà, mais je voulais pas que tu dises le nom. Ce sont des gens qui n'ont certainement pas part au monde futur, mais qu'est-ce qu'ils sont drôles. Quoi qu'il en soit, pour les enfants, c'était quelque chose qui leur parlait énormément. Maintenant, c'est pas du tout cachère. Zélo, bon, mais Zélo, c'est pas comme ça qu'on étudie la Torah. Aval, je leur ai mis d'abord les 5 minutes de ça. Ils étaient à fond dans le truc. Et donc après, on a pu dire, OK, donc vous avez vu ça? Venez, on regarde ce qui est vraiment marqué. Non, mais attends, mais c'est à quoi ? C'était pas vraiment comme ça ? Mais attends, mais là, il est marqué dans le texte qu'en fait, c'était pas du tout comme ça. Ah bah oui, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas comme ça. Ah, et la Gemara, elle dit comment ? Et donc, on a pu tenir 2 heures là-dessus, parce qu'on avait commencé par quelque chose qui leur parle. C'est, mais c'est plus que ça. C'est un mock, c'est un miti. C'est un miti. C'est-à-dire que le prochain cours, on le fait sur le terrain de foot. Parce qu'à la fin, ils m'ont dit, ouais, mais bon, ils m'ont lancé un défi. Ils m'ont lancé un défi de tir au but. J'ai dit, ça a l'air gamour. Il me dit, non, mais les rabbins, ils ne savent pas faire de sport. Alors, je dis, ça a l'air, bon irait.
Donc, entraînement, là.
Bon irait. C'est-à-dire que, mais c'est très important, parce que pour eux, ils ont 14 ans. Donc, c'est normal, c'est le moment où... Ça a l'air, c'est ça qui te fait vibrer. Yalla, bon irait. Donc, c'est ce que Moshe, ici, il se passe.
Quelle est ton approche avec nous, alors?
Dire au but, non? On se retrouve sur le terrain la prochaine fois. Ça a l'air. Kitzur. Donc, Elo Abraham, Elo Yitzhak, Elo Yaakov. Vaster Moshe Panav, ki yare me'abit el Elohim. Vayomer Hashem, Rao ra'iti et oni ami asher b'mitzrayim. Quel âge a Moshe maintenant? 80 ans. Ça fait 40 ans qu'il est à Midian. Ça fait 40 ans qu'il est berger chez Yitro. Donc 40 ans qu'il a mis en place sa nouvelle idéologie. Et à ce moment-là, Dieu lui balance un coup de marteau. Il lui dit, « Vayomer Hashem, Rao ra'iti et oni ami asher b'mitzrayim. » J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais qui c'est mon peuple? C'est celui qui est en Égypte. Pas ce que tu essayes de créer là à Midian. C'est pas possible. Ça effondre toute l'idéologie de Moshe depuis 40 ans. Il a rejeté le peuple d'Israël. Et pourquoi il les a rejetés? On avait dit parce qu'ils sont méchants. Donc qu'est-ce que c'est? Dieu vient dire non, mon peuple, c'est celui qui est en Égypte. Alors comment on fait? Bah, en fait. Dieu va expliquer à Moshe qu'il faut qu'il étudie un petit peu le Rav Kook. Là oui. Parce que quel est le commentaire du Rav Kook dans la Haggadah de Pessah sur le verset qui dit Vayareu otanu amitzrim. Vas-y, Vayareu otanu amitzrim. Alors, littéralement, ça veut dire les Égyptiens nous ont fait du mal. Le Rav Kook, il dit oui, ils nous ont fait du mal, ça c'est évident. Mais ils nous ont fait également devenir mauvais. Emasu otanu ra'im. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on se comporte comme des pourris? Parce qu'on est en Égypte. Sors-nous d'Égypte, tu verras qu'on sera des gens extraordinaires. Des explorateurs, Korach, des gens bien, quoi. C'est-à-dire Nachon, des gens sympas. Rao ra'iti et oni ami asher b'mitzrayim v'etzakatam shamati mipenei nogesav ki yadati et machovav. Il souffre. וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ הטובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפריזי והחיבי והיבוסי. Voilà le projet. Dieu vient de donner le projet à Moshe. Je vais descendre, les sortir, les sauver de la main des Égyptiens et de les sortir de cette terre-là pour les emmener dans une terre bonne et large, la terre où coule le lait et le miel, l'endroit du Canaani, du Chiti, du Hémori, du Périsi, du Chivi et du Yevusi.
Pourquoi il cite
les 7 peuplades cananéennes? Ah, pour qu'on sache bien de quelle terre on parle. Tous les endroits qui sont pris par ces peuples-là, c'est les endroits que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qui manque là dans le projet?
La Torah.
La Torah. C'est-à-dire que dans le projet, on ne nous parle pas de Mahamad Arsinaï. Pourquoi? Ben parce que ce n'est pas le projet.
Même dans les 4, le chemin de Chel-Géoula,
préparation.
Ah, tu dis dans les 4, le chemin de Chel-Géoula, il n'y a pas. Yesh, Becholzot. Puisqu'il y a marqué Veotseti, Veitzalti, Veotseti, Veitzalti, Vegaalti, Velakarti. Attends, tu as dit les 4 premières. Veveti, c'est le 5e. C'est-à-dire, Azvelakarti. Le seul problème, c'est qu'après, il y a marqué « Vidatem ki ani Hashem ». Et ensuite, « Veheveti ». Donc, le « Vidatem », c'est en correspondance avec la Torah. Mais c'est « Ramouz ». Ici, ce n'est pas du tout dit. Parce qu'en vrai, la Torah, elle devrait être donnée où ? Bah, en Israël, au Ramoria. La Torah aurait dû être donnée à Jérusalem. On nous dit que finalement, il l'a donnée avant, parce qu'Ava Mekalkel était à Shura et tout ça, et qu'il voulait tellement la donner, il l'a donnée.
Mais
parce que quand tu es amoureux, des fois, tu fais des trucs par empressement. Tu es tellement pressé de lui faire plaisir, et des fois, ça ne se fait pas comme il faut. Alors, évidemment que c'est Dieu, donc Dieu, il ne se trompe pas. Il y a aussi une dimension du fait que c'est donné dans le désert. Mais ça ne fait pas partie du projet. Ne pense pas que tu sors d'Égypte pour recevoir la Torah. Tu sors d'Égypte pour arriver en Eretz Israël.
Non, mais c'est du matériel, du chômage, pas autre chose.
Mais quel est...
C'est relatif le peuple à...
Mais je ne comprends pas quel est votre problème avec le chômage. Ma abaya ba chômage. Tu es fait de quoi ? De pure énergie ou tu es fait d'un corps qui va aux toilettes ? Non, pas des deux. T'es fait d'un corps qui va aux toilettes. Tu me dis, dedans, j'ai aussi une neshama. C'est pas de l'énergie, la neshama. C'est du divin. C'est ma chouachère. C'est ça ? Donc, tu es fait d'un corps matériel, ma Mara.
Mais ça, c'est futile.
Mais pas du tout. C'est futile.
Je sais pas.
Attends, deux secondes. Bimkhila. D'accord ? On est filmé et retransmis par des millions. Les crottes de chien, c'est futile ou pas ?
Ben c'est peut-être utilisé comme engrais, peut-être pour la
paix. T'es d'accord avec moi que c'est a priori pas la notion la plus... Aval nous dit le Perek Shira à la fin. Lorsque Rabbi Ishaya Talmido shel Rabbi Hanina ben Dosa Itana, Khamesh Ushmonim Ta'aniot. Il a pris sur lui 85 jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il ne comprenait pas comment c'est possible que les derniers qui chantent dans le Perek Shira, vous savez ce que c'est Perek Shira ? La chanson de toute la création. Les derniers, entre guillemets, personnages qui chantent, c'est les chiens. Il dit, les chiens ? Ils ont le mérite d'être dans le Perek Shira, et en plus en dernier. Ah ! Les clavim, il y a marqué dans les prophètes, Azen Nefesh, Loyadou Sova. C'est des chutzpanim, ils voient un homme qui est créé à l'image de Dieu, ils font Ruf. Ma Zé, Zéchar. Et donc il était très mal, ce monsieur Rabbi Hanina, Rabbi Ishaya. Et donc il y a un malach qui est venu lui répondre. Il a dit, comme tu es l'élève d'un mec bien, alors je viens te répondre. Eh bien, sache que non seulement les chiens ont leur place parce que quand on est sorti d'Égypte, ils n'ont pas aboyé, mais en plus de ça, de leurs excréments, on fait sécher les peaux sur lesquelles on va finir par écrire les Sifrei Torah. Bon, je t'ai parlé des excréments, mais j'aurais pu te demander, la peau de la vache, c'est super élevé ? Ben ouais, t'en fais un Sefer Torah. Donc oui, mon ami, le monde matériel dans lequel on est, c'est à toi d'en faire un endroit où réside la Kedusha. Et certainement pas un endroit que tu dois fuir pour arriver dans un espèce de nirvana complètement spirituel. Nous sommes juifs et nous ne sommes ni chrétiens à séparer le matériel et le spirituel, ni bouddhistes à vouloir annihiler le matériel. Nous sommes juifs qui voulons réunir. Une notion ultra-matérielle, tu as raison. Ah, complètement. C'est-à-dire qu'il lui a demandé d'enlever ses chaussures, c'est-à-dire qu'il ne fasse plus qu'un, corporellement parlant, entre lui et la terre. Lama, parce que cet endroit-là, à ce moment-là, c'est Admat Kodesh.
Avec quand même une intermédiaire spirituelle, quand même. C'est pas la terre pour la terre. La terre, il l'avait à côté, il l'avait à droite à gauche.
Non, il ne l'avait pas à côté, à droite à gauche. À droite à gauche, c'était Stam le mont Sinaï. Mais au moment où Dieu se dévoile à cet endroit-là, Zadmat Kodesh, tu as raison que cet endroit-là redeviendra Stam une terre après le buisson. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu te balades au mont Sinaï, si tu sais où c'est, Marloket, il y a trois avis actuels, Mais si tu vas et que tu sais où c'est, tu peux te balader là-bas sans problème, chaussures, comme tu veux, pieds nus, je m'en... Non, pas bien, tu vas pas prier, quoi, mais tu peux aller là-bas sans problème. Alors que je te rappelle qu'à l'époque de la Torah, tout celui qui monte sur le mont Sinaï au moment des événements, mot yumat. Parce que la Kdusha du Har Sinaï, c'est qu'au moment où Dieu il se dévoile là-bas. Alors que la Kdusha de Har Abayit, elle est toujours là. Même quand il n'y a pas de Bet Amigdash, quand la Kdusha, elle est là. Donc il y a des endroits où Zé Mamash Admat Kodesh. Bah, Admat Kodesh, Dieu il veut que tu t'imprègnes de cela. Et il n'y a pas d'intermédiaire spirituel. Tu es l'intermédiaire, pas spirituel. Kodesh. Et ton rôle est de faire en sorte que ce monde-ci soit un endroit où tu peux dévoiler le Kodesh. Ok ? Donc, voilà, le plan, c'est d'arriver en Eretz Israël. Voilà le plan. C'est le projet. On ne parle pas de Torah ici. Ve'ata. Ine. Tzakat bene Israël ba elai. Regarde, pourquoi le plan, c'est d'arriver en Eretz Israël ? Parce que vous vous rappelez, il a dit je me souviens de qui ? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, à Avraham, Yitzhak et Yaakov, il leur a promis aux trois deux choses. Qu'il y aurait un peuple. Donc, ça, c'est Am Israël, c'est Bnei Israël. Et la terre d'Israël. Pas Stam, une terre. Pas l'Ouganda. La terre d'Israël. Ça ? Donc, Veine. ואתה הנה צעקת בני ישראל בא אליי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם ואתה לך וישלחך על פרו ועוצה את עמי בני ישראל ממצרים. Donc j'ai vu que là les Égyptiens se comportent trop durement avec les Bnei Israël, donc vas-y. Pourquoi est-ce que c'est important de nous dire qu'il a vu le lachatz? S'il n'avait pas eu marqué, on aurait compris quand même. Pourquoi c'est important qu'ils nous le disent ? Ben c'est pour se justifier. Dieu se justifie. De quoi ? De nous sortir d'Égypte avant l'heure. De nous sortir d'Égypte avant l'heure. Puisque combien de temps on devait rester en Égypte ? 400 ans. Et ça fait 210 ans. Ça, c'était 400 ans si c'était vivable. Mais comme les Égyptiens, ils ont fait n'importe quoi, alors c'est maintenant. Oui ?
Qui te dit qu'il les punit ?
Tu peux sortir les Bnei Israël d'Égypte sans... Ben non, qui me dit qu'il les sort ? C'est parce qu'il vient de le dire. Je descends pour les sortir de là-bas. C'est, on vient de le dire. Alors toi, tu dis qu'il veut les punir, les Égyptiens, d'avoir fait quelque chose de pas bien.
Il a promis à Abraham, ils font du lachatz.
J'ai bien compris qu'ils font du lachatz, mais ils n'ont pas le droit de faire du lachatz ? Qui te dit ? Je vois où tu veux en venir. Tu vas me dire que les 10 plaies, c'est la punition que les Égyptiens se prennent. Mida keneged mida. Hachela, est-ce que c'est une punition ou est-ce que c'est la réponse normale du berger à la bergère ? C'est-à-dire, est-ce que c'est une punition qu'ils ont fait quelque chose qui était lo beseder ou est-ce qu'ils ont fait quelque chose qui était beseder mais qui va avoir une conséquence ? Lo beseder. D'accord, on dit à aucun moment de les dipler que c'est une punition.
Il avait promis à Abraham au moment des séparations des animaux qu'il punirait le pays qui va les...
Non, il n'y a pas marqué qu'il va les punir.
Il les punirait ?
Non, il n'y a pas marqué...
C'est
pas... Non, non, c'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué... Yado ateda ki ger yeh zaracha be'eretz lo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Qu'ils vont, que tes enfants, tes descendants seront étrangers dans une terre étrangère, et que les autochtones vont les rendre en esclavage, va'avadum, ve'inu otam, et ils vont les persécuter, les faire souffrir 400 ans. Ve'gam et agoyaze dan anochi. Je vais les juger. Ça ne veut pas dire forcément les punir. Les juger. On va voir s'ils méritent d'être punis ou pas. Oui, ils mériteront d'être punis, la preuve, ils vont se prendre toute l'eau sur la figure et ils vont tous se faire éclater dans la mer. D'accord. Mais ça ne veut pas forcément dire que dès le départ, je sais qu'ils vont mériter d'être punis. Nous, on sait, parce qu'on a vu la fin du film, on sait qu'ils vont être punis. Mais la question ici, c'est, est-ce que le lachatz en soi mis par les Égyptiens, il est le bessader? Le simple lachatz, on nous dit ici, si on nous le dit, c'est pour nous dire qu'il était trop. De la même façon qu'on va retrouver dans le livre de Ketubot, dans la Gemara, que l'un des tenants des chevois, un des serments que Dieu fait prêter au monde pour que l'exil puisse exister. Alors, il y a deux serments qui sont pour nous, les Juifs, qu'on n'a pas le droit de transgresser, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se révolter contre les nations, on n'a pas le droit de conquérir la terre d'Israël en force. Et les nations n'ont pas le droit de nous asservir trop. Un peu oui, trop non. Et donc, il se tourne vers Moshe et il dit « Vas-y, va chez Pharaon !» Quelle est la réponse de Moshe? Ah, c'est sûr que c'est pas facile. Mais attendez, s'il doit être envoyé chez Pharaon, il est envoyé chez Pharaon pourquoi? Pour sortir le peuple d'Égypte. Donc c'est-à-dire que il doit être un Égyptien ou un Hébreu pour faire ça? Un Hébreu? Mais un Hébreu, c'est un esclave. Ça sert à rien qu'un esclave il fasse sortir le peuple d'esclaves de l'esclavage. Ils sauront rien faire. Compliqué. Ben oui, mais il faut qu'il soit un guide après, il faut qu'il soit un chef. Ben un chef, c'est quelqu'un qui a appris à être un chef. Donc un Égyptien. Non, si t'as ou les Égyptiens ou les Hébreux.
Non,
autre chose.
Un nouvel
avis. Un Midianite, par exemple.
Exactement, un nouveau pharaon s'est levé, un nouveau Moshe s'est levé.
Non, alors
il faut que ce soit un nouveau Moshe.
Ou un mix des deux.
Mais quitte, vous comprenez qu'il aimait boule-balle, le Moshe. Et donc, réponse de Moshe à Dieu, « Va yomer Moshe el Elohim, mi anori. Mi anori. Asher elech el paro. » C'est-à-dire que, chez Paro, nous, on a vu la fin du film. On sait qu'au final, Dieu, il veut se dévoiler aussi à l'Égypte. Pour expliquer à l'Égypte que Yesh Hashem, qu'il y a Dieu, il faut un Hébreu. Parce que c'est l'Hébreu qui a gardé la tradition du dévoilement divin. Mais pour guider un peuple, politiquement parlant, il faut un Égyptien. Donc Moshe, il dit « Mi anochi asher elech el paro ?»« Mi anochi ki elech el paro ?»« Vechi otzi et bnei Israël mi Mitzrayim ?» Et en fait, c'est quoi le chidouche? C'est que, comme on a dit depuis le début de notre étude ici, c'est que Moshe, il est et Hébreu et Égyptien. C'est exactement de cela qu'on parle. Moshe n'est le seul à pouvoir remplir le rôle parce qu'il est et celui qui peut expliquer le dévoilement de Dieu et celui qui peut guider le peuple d'Israël en tant qu'identité nationale. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu se dévoile d'Afka à lui. Et on va voir que toute la discussion au buisson, c'est Moshe qui essaye par plein d'arguments de dire « Lo ani lo matim ». Non, je ne suis pas le bon candidat. Pourquoi? Parce que Moshe pense qu'il n'est plus égyptien, mais il pense qu'il n'est plus non plus hébreu. Et donc toute la discussion au buisson, c'est Dieu qui va essayer de réexpliquer à Moshe qu'il n'est pas midianite, qu'il est vraiment Moshe, hébreu et égyptien, et c'est pour ça qu'il va le choisir. Mais ça, on le verra la semaine prochaine.